de Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Cruel et Sac à dos vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Me voilà du côté de Carnac et comme nous faisons dans Truelle et Sac à dos maintenant, ça devient notre petit rituel, nous avons dit, nous aimons commencer par apprendre à connaître la personne que nous rencontrons et aujourd'hui je suis avec Victoire Doré. Expliquez-nous un peu, mais qui êtes-vous ?
Bonjour.
C'est ça.
Déjà. Je suis directrice de Paysages de Mégalithes, qui est la structure qui porte le dossier d'inscription des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et alors, comment es-tu arrivée à avoir ce poste au sein de cette structure ? Quel est un petit peu ton parcours ?
Quand la structure s'est créée, c'était en 2012, à l'initiative des collectivités territoriales et du département du Morbihan, les élus qui étaient dans le conseil d'administration ont tout de suite eu l'intuition qu'il fallait quelqu'un qui s'occupe de la partie vraiment de montage de dossier UNESCO. Et dans ce cadre-là, on s'est rencontrés et j'ai été embauchée pour l'ingénierie du dossier UNESCO, mission que j'assure toujours aujourd'hui.
Et alors, tu as été embauchée parce que tu as vu de la lumière, tu t'es dit, tiens, c'est un truc qui me plairait bien.
Je travaillais à l'époque pour ICOMOS France. Donc ce sont eux par exemple qui, lorsque les dossiers sont dans leur phase terminale, vont sur les sites, envoient leurs experts et ils viennent voilà, sur tous les biens qui sont en candidature une semaine pour vérifier qu'on a bien mis la réalité en termes de gestion notamment. Moi je travaillais pour la section française, donc j'étais à l'intersection avec particulièrement les sites qui étaient déjà inscrits. Il y en avait un petit peu moins à l'époque parce que c'était il y a finalement quelques années maintenant.
C'est ça. Et tu avais déjà une connaissance du territoire.
Donc j'avais déjà une connaissance des biens qui étaient inscrits. On travaillait avec un certain nombre d'entre eux. Et puis on avait une connaissance des sites en candidature. En France, on appelle ça la liste indicative. Et sur cette liste, c'est l'antichambre de la candidature officielle. Il y a certains sites qui sont depuis très longtemps qui n'attendent qu'une étincelle territoriale pour se relancer dans la course. Et c'était le cas de Carnac. Donc quand l'association s'est montée, portée par le territoire, là on s'est tous dit, c'est bon, ça va être la bonne. Donc j'ai envoyé ma petite candidature à plusieurs personnes. Et dans ce cadre, avec le maire de Carnac à l'époque, Jacques Bruno, ils ont monté leur association. Et donc on a débuté, on était trois. Et depuis cette époque, j'ai été embauchée pour porter l'ingénierie du dossier UNESCO et notamment faire l'interface avec les archéologues du comité scientifique qui est présidé par le professeur Coppens encore aujourd'hui. Et cette mission qui était le cœur de mon travail est encore aujourd'hui d'ailleurs ma mission principale, en plus de la mise en musique du reste de l'équipe.
Et alors, toi, tu t'es retrouvée sur ce type de mission, c'est quelque chose qui te plaisait déjà dans ton parcours scolaire avant, ou tu étais partie peut-être vers d'autres orientations au départ ?
Moi, j'ai fait l'histoire de l'art. Donc à la base, j'ai quand même une appétence très forte pour le patrimoine bâti notamment, parce que je me suis spécialisée en architecture moderne religieuse. On n'est pas à la bonne époque, on est d'accord, mais néanmoins, ça reste du caillou. Et quelque part, le concept de bâti, c'est en filigrane depuis que je suis toute petite. C'est vrai que j'ai toujours aimé aller visiter les châteaux, les églises.
Mais c'est vrai que là, ça reste du caillou, mais tu es quand même plus dans de la gestion de projet.
Ouais.
Tu es quand même en amont largement. T'es pas forcément, tu peux être sur le terrain ou amené à accompagner d'autres sur le terrain, mais tu es quand même plus dans du montage, quoi.
Oui, c'est tout à fait exact. Finalement, le tronc commun, c'est bien la préservation des monuments, qu'on soit sur le terrain ou qu'on soit en gestion de projet. Et ça, ça a toujours été quelque chose de très important. La préservation du patrimoine par la connaissance et par le collectif, ça, c'est quelque chose au cœur du dossier UNESCO. Et c'est quelque chose qui me manquait quand je travaillais à ICOMOS. on travaillait beaucoup avec l'international.
Ouais. Tu étais peut-être éloignée du terrain, quoi.
Et j'étais très éloignée de la gestion quotidienne, finalement. J'étais plus dans la théorie. On était à l'interface avec l'État français, et notamment le ministère de la Culture et celui de l'Environnement, qui sont tous les deux en gestion du patrimoine culturel. Et puis avec l'international, et ça, c'était vraiment très chouette. On avait des beaux échanges, notamment lors des réunions des comités internationaux. Mais la gestion quotidienne, l'application directe et concrète, ça, c'était quelque chose qui me manquait et que j'avais très envie de tester. Et ça, la meilleure façon d'aller tester, c'est d'aller travailler au sein des collectivités territoriales.
Oui, c'est ça. Donc là, au sein de l'association, comment elle se compose ? Et vous avez différents services en termes d'action sur le territoire. Je ne spoil pas, mais je pense qu'on y reviendra plus en détail. Mais déjà, même pour donner un prémisse, on va dire, de ce que c'est.
Aujourd'hui, on est 5 dans l'association. 5 salariés. C'est une association qui tend à se renforcer, puisqu'on va notamment embaucher une urbaniste qui vient nous rejoindre dans le mois prochain. Et on est 5 salariés. Mais je vais les nommer.
Mais allons-y.
On va rendre à César ce qui appartient à César. Parce qu'on travaille beaucoup en collectif. Il y a Émilie Edbeau qui est sur le terrain, qui fait l'étude d'état des lieux des monuments. Donc il les connaît tous et même bien au-delà. et qui est là avec moi depuis le début de l'association. Ensuite est arrivée Marine Chupin, quelques années après, qui elle s'occupe des archives. Donc qui a couru tous les vieux documents poussiéreux, mais néanmoins extrêmement intéressants et extrêmement importants pour la connaissance du dossier. Et ensuite est arrivée Priscille Magon l'année dernière, qui elle travaille sur les aspects administratifs et financiers. C'est moins glamour, mais c'est
le nerf de la guerre.
Très important, exactement. Qui met en musique tout ça, et heureusement qu'elle est là. Et puis Pauline Meunier nous a rejoint en septembre de l'année dernière et qui est une médiatrice archéologique qui est sur le terrain et notamment en contact de deux publics cibles pour nous, les scolaires et les élus.
Donc que des femmes.
Oui, alors on n'est que des femmes. Ça fait... J'ai souvent des remarques à ce propos, mais c'est pas du tout... Le recrutement se base pas du tout sur le genre, heureusement, hein, bien sûr, mais je préfère le dire. Il s'avère que... on prend juste les meilleurs et les plus adéquates pour le poste et c'est toujours, c'est toujours des femmes.
Concernant toi, donc la principale de tes missions, on a dit que c'était justement la notion de candidature, ouais. Inscription à l'UNESCO, comment on dit déjà ?
On dit candidature pour une inscription à l'UNESCO. On ne parle pas de classement, on ne dit pas classé à l'UNESCO.
C'est ça, parce que je pense que souvent on l'entend par rapport au classement monument historique.
C'est exactement ça.
Je suis classé UNESCO. Et non, on ne l'est pas.
On ne l'est pas, non. On est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le classement, c'est un peu un abus de langage qui est particulier à la France, parce que c'est ce que tu viens de dire, en France, le classement au monument historique, c'est le niveau le plus haut de protection réglementaire pour le patrimoine.
Donc je pense que la vision des gens, elle est rattachée à ça, quoi.
C'est ça.
Et alors, comment ça marche concrètement ?
Comment ça marche concrètement ? En France, on a la chance d'être très accompagné par les ministères de l'Environnement et celui de la Culture, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui ont mis en place un protocole de suivi, de conseil, parce qu'on a un patrimoine extrêmement riche. L'idée de cet accompagnement qui s'appelle le Comité des biens du patrimoine mondial, qui est un organe qui se réunit plusieurs fois par an pour accompagner les porteurs de projets, et qui met à notre aide deux experts qui nous aident tout au long du processus. Donc l'idée, c'est de faire les meilleurs dossiers possibles pour être sûr qu'on soit inscrit et reconnu par la communauté internationale. On est un des dossiers qui a le plus de biens inscrits. On a une série d'obstacles à passer, des auditions, ça s'appelle, dans un langage plus consensuel. On se contente de présenter les arguments scientifiques dans un premier temps, ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle et les attributs, qui sont finalement les arguments scientifiques de tout dossier. Alors nous, on a 4 attributs archéologiques, les stèles, les dolmens, l'art pariétal et le mobilier, qui forment la colonne vertébrale du dossier. Et puis ensuite, on a un attribut de paysage, notamment le paysage de littoral, qui met tout ça en concordance parce que les attributs sont liés les uns avec les autres et se sont développés par rapport à un paysage qui nous est spécifique à nous, sud-morbihan, les rivières, donc les littoraux au sens large. Une fois qu'on a validé ces critères-là, on doit en matérialiser les attributs, il faut le dire dans le jargon UNESCO, à savoir définir un périmètre, tout simplement. En soi, ça a l'air très simple et c'est finalement extrêmement complexe de définir de quoi on parle aujourd'hui, le mettre en concordance avec ce qui a dû se passer au néolithique. Il y a donc plusieurs milliers d'années.
Où ça s'arrête, même pour vous, en termes d'analyse, d'études de ces différents sites, parce qu'ils peuvent être en corrélation peut-être aussi avec d'autres qui seraient considérés comme étant hors champ.
Savoir où on pose le trait, c'est finalement quelque chose que nous, on a défini en termes de paysage et notamment de structure morphogéographique. Parce qu'il se passe quand même quelque chose de très spécifique chez nous, là, dans la frange littorale. Donc, il a fallu qu'on valide un périmètre. C'est ce qu'on a fait en juin de l'année dernière. Et maintenant, on travaille à la gestion de ce bien. Donc, quand je parle de bien, c'est à la fois mettre en synergie les 540 monuments dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les mettre en concordance avec le paysage aujourd'hui et impliquer l'ensemble des acteurs dans la préservation et éventuellement la valorisation de ce territoire.
Donc, il y a une volonté, on va dire, qui est peut-être liée plus à du développement touristique, pour relancer l'économie locale, ou comment ça marche, c'est ça ?
L'objectif de tout dossier UNESCO, tout patrimoine confondu, tout porteur confondu, toute nationalité confondue, c'est la préservation du patrimoine, voire sa protection.
Donc en fait, on le retourne, c'est-à-dire que comme vous aviez trop de touristes, il était temps de protéger ce que vous aviez.
Alors peut-être pas à ce point-là, parce que finalement, préserver, ça recèle une multitude de réalités. Qu'il y a aux menaces éventuelles. Alors nous, effectivement, tu l'as dit, il y a une réalité touristique qui est très présente, particulièrement en saison estivale. De là à dire que c'est une menace directe sur les sites, bon, ça reste à calibrer, il faut encore qu'on y travaille, qu'on mette en place un suivi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de sites archéologiques, donc extrêmement fragiles, avec une fréquentation estivale qui peut être un peu délicate. Bon, il y a un certain nombre de menaces sur lesquelles nous on est en train de travailler et sur lesquelles on espère faire un éclairage et attirer l'attention des décideurs, voire des habitants au sens premier du terme. Et ça sert à ça, un dossier UNESCO. Ça sert à améliorer la connaissance, à améliorer l'appropriation collective et à améliorer finalement le respect, la préservation, voire la protection. Qu'on a d'un point de vue très formel. D'ailleurs, en lien avec le dossier UNESCO, ce qui se passe, c'est que l'État a engagé une mise à niveau et une augmentation des protections réglementaires monuments historiques. Mais rien que ça, c'est assez formidable de savoir qu'il y a plus de monuments qui vont être protégés.
Oui, et puis ça sensibilise justement à ce que tu disais, quoi, à prêter attention davantage à son environnement, faire attention si je vais pique-niquer en famille, à ne pas juste monter, crapahuter je ne sais où, prendre en photo n'importe comment. Oui, ça permet de prendre soin de ces édifices-là sur du long terme.
C'est ça.
Et de prévoir, comme tu le disais, cette destruction à terme pour certains, sans doute, et d'en garder une trace, puisque l'étude aura été faite aussi dans le cadre de cette candidature. En tout cas, ça permet d'avoir un dossier plus complet sur chacun des sites, quoi.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une très nette amélioration de la connaissance, même s'il y a un certain nombre de scientifiques et d'archéologues qui travaillent sur cette question. On a énormément de sites, on a des centaines de sites. Et tout ce qui améliore la connaissance, à mon avis, favorise la protection des monuments. On a beaucoup de monuments qui sont en contexte urbain très contraint. Et rien que de voir qu'au niveau micro-local, il y a une meilleure appropriation collective de ce monument et un meilleur respect que finalement le menhir qui est en plein milieu de la ville ne sert plus de dépotoir ou de promène-chien. Et ben, c'est des petites victoires qui, mises bout à bout, font la réalité et la cohérence du dossier UNESCO.
Et alors, pour toucher le fameux nerf de la guerre dont on parlait tout à l'heure, est-ce que financièrement, ça permet aussi de contribuer sur le long terme à pouvoir mener des actions véritables sur site ou auprès du public ?
Oui, c'est vrai que Un dossier UNESCO, ça permet peut-être de lever des possibilités qu'on n'aurait pas eu autrement. Nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en synergie l'ensemble du territoire. De raisonner en termes de circulation douce, de régulation des flux sur l'ensemble du territoire, de travailler sur un maillage territorial, des randonnées. On travaille en ce moment avec le département sur une signalétique interprétative qui sera déposée sur un certain nombre de monuments qui sont identifiés pour faire un maillage et faire découvrir ce paysage de mégalithes et se sortir un peu de l'ornière des hotspots touristiques qui sont des aspirateurs à touristes dont on a besoin mais qui font pas la quintessence du dossier UNESCO finalement.
Pour la partie, moi j'aime bien poser la question sur la médiation en archéologie justement, en particulier. Et toi, qu'est-ce que tu entendrais par ce que serait la médiation en archéologie ? Parce que là, en plus, tu as l'exemple, au niveau local, de ton expérience à toi. Mmh. Donc, tu as peut-être une vision aussi plus personnelle qui vient se greffer à tout ça.
Oui, c'est une bonne question. Nous, on est venus très tard, finalement, sur la médiation en archéologie, puisque c'est ma collègue Pauline qui s'en occupe maintenant, parce qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir. On est plutôt dans ce qui concerne l'appropriation collective liée au dossier UNESCO. Donc, c'est une appropriation qui passe à la fois par la médiation sur un monument, mais aussi dans son environnement de proximité, dans son environnement très large dans le paysage. Puisque nous, on comprend le monument que par rapport à l'interaction qu'il a avec son petit voisin autre monument et par le paysage qu'il accueille. Donc c'est de la médiation un peu large, au sens large du terme, et qui n'est pas notre cœur de sujet, même si, paradoxalement, c'est bien le monument archéologique qui est au cœur de notre dossier UNESCO.
Oui, et puis enfin après ce sera peut-être par obligation aussi que vous allez devoir peut-être gérer une certaine valorisation qui passera par la création d'outils spécifiques, quoi.
Oui, peut-être. Ça, c'est... On en est là de la réflexion, finalement. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler dans le cadre du plan de gestion. On a des groupes thématiques qui sont... On a trois groupes thématiques qui réfléchissent sur les priorités d'action à donner et qui seront ensuite validées par nos organes de gouvernance qui sont de deux types. Il y a l'Assemblée Générale et puis il y a le comité de pilotage qui est présidé par le préfet qui vont trancher à la fois sur les priorités d'action à mener et sur les acteurs, le portage de ces priorités puisque Paysage de Mégalithes n'a pas vocation à tout accueillir et à tout gérer. Heureusement, on a des compétences très diverses et variées et très nombreuses et très riches déjà sur le territoire, à la fois en archéologie, que ça soit par différents acteurs avec qui on travaille, dont le Centre des Monuments Nationaux que j'ai cité tout à l'heure, ou les musées, le musée de Carnac, de préhistoire de Carnac, qui lui aussi fait déjà beaucoup de médiation en archéologie, évidemment. Et puis l'idée, c'est vraiment de réfléchir en sens collectif du terme. Peut-être qu'on sera amené à renforcer cet aspect-là dans les prochains mois, voire prochaines années, la médiation archéologique de terrain. Aujourd'hui, ce que fait Pauline, c'est notamment auprès des scolaires, des écoles. L'idée étant d'amener chaque petit scolaire un jour sur le site de sa commune.
Oui, bah ça rejoint ce que tu disais, quoi, de sensibiliser au plus proche d'abord.
Exactement.
Voilà, d'être dans du participatif et... Oui, du collectif, genre mon site il est sur telle commune, je vais d'abord le faire connaître à cette commune, et donc forcément ça passe aussi par les enfants, d'informer à minima, quoi.
C'est vraiment ça l'idée. Nous, c'est vraiment de contribuer à faire prendre conscience à tout le monde de la merveille qu'il a sous le nez, finalement, presque au quotidien.
C'est en face de chez lui.
Et c'est en face de chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir la grotte Chauvet qui aussi est formidable soit-elle. Le monument que tu as au bout de ta rue, il est aussi exceptionnel et il doit faire sens pour tout le monde finalement. Et c'est ça, c'est vraiment l'objectif du dossier UNESCO.
Et alors, pour finir, moi j'ai toujours une petite question un peu différente et qui nous sort un peu du sujet, mais pas forcément complètement. Est-ce que, parmi tout ça, mais tu as le droit d'en choisir un autre ailleurs, est-ce que tu aurais un site préféré dont tu pourrais nous parler ? C'est ouvert.
Ah, c'est terrible de devoir choisir.
C'est ça, c'est compliqué.
Oui, parce que officiellement, tous ces 540 monuments, ils sont tous formidables, bien sûr. Après, je dois reconnaître que je ne les connais pas tous. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que j'en découvre encore beaucoup.
Émilie, s'il te plaît.
Oui, c'est souvent le cas. C'est quoi ça? Et d'ailleurs, dès que je peux aller sur le terrain avec mes collègues, je me fais une joie d'y aller parce que même un site qu'on connaît, ça change avec le...
La saison sur l'autre. Ouais,
oui, c'est... puis la saison, vraiment, ouais. C'est...
On le découvre différemment.
C'est très différent. J'en ai quand même deux que moi, j'aime. Petite... voilà.
Des chouchous.
Des petits chouchous, ouais, sur lesquels j'aime bien aller. Oh, j'en ai même trois, en fait.
Avant de venir au travail... Un petit détour en voiture.
Ouais, non, mais non, parce qu'en plus, il n'y en a aucun Carnac. Je suis désolée, je ne devrais pas le dire trop fort, mais c'est vrai. Il y a Pénap à l'île Moine. Cette impression de bout du monde, ce rapport avec le littoral, là, c'est vraiment exceptionnel. Ce site, il est très, très beau. J'aime beaucoup, on a l'impression d'être ailleurs. L'ensemble, l'environnement, notamment quand la bruyère est en fleurs, c'est très beau. Il y a le bois du Varquez à Erdeven. Qui est tellement riche de monuments, dans ce couvert boisé là, qui est exceptionnel. On aime beaucoup y aller avec ma famille. On fait une chasse au trésor avec mes enfants. On cherche les cailloux qui sont sous les fougères. C'est très sympa. Et puis j'aime beaucoup aussi aller au tumulus de Kernours au Bonneau. Il est très chouette. D'ailleurs, le réseau fait encore souvent des journées préhistoriques, je ne les manque pas.
Les rencontres qui ont lieu là-bas,
c'est le site
à valoriser justement.
Ce site, il est dans un environnement qui est magnifique avec plein de chouettes chemins de randonnée et puis il est tellement riche de possibilités.
Bon, donc on a encore pas mal de choses à voir, entre le dossier UNESCO à terminer, les sites un peu partout à valoriser à l'échelle régionale. Eh bien, merci beaucoup, Victoire, de nous avoir reçus ici, donc, dans vos locaux, à l'entrée de Carnac. Vous ne pouvez pas les trouver, je pense. C'est dès qu'on arrive, ils sont là. Vous avez de quoi vous garer devant. Et puis, on se donne rendez-vous donc sur Radio Évasion la semaine prochaine avec une nouvelle émission et toujours de nouveaux sujets pour découvrir la Bretagne avec Truelle et Sac à dos, bien évidemment. Et c'est ce que je dis maintenant, j'ai pris goût. Je continue, peut-être une saison 2 à venir, qui sait. Mmh. Et puis voilà, merci encore Victoire.
Merci Céline.
Comme vous l'aurez compris, les projets d'inscription de sites à l'UNESCO, c'est sur du long terme. Cela va faire bientôt 10 ans que l'aventure a commencé pour le Morbihan. Et il faudra encore attendre quelques années pour concrétiser les diverses auditions permettant d'obtenir le Saint Graal. Alors, en attendant, vous pouvez découvrir l'exposition interactive et itinérante consacré au néolithique, proposé par le département du Morbihan à partir du 26 mars à l'hôtel Gabriel à Lorient, et puis un peu partout dans le département par la suite. Vous pourrez vous initier à l'archéozoologie, la céramologie ou la palynologie. Et sinon, il y a toujours le tumulus de Kernours et tous les autres sites, aussi bien ceux qui vont être probablement inscrits que tous ceux de la région où les différents acteurs que nous rencontrons avec Truelle et Sac à dos continuent le travail de valorisation. À bientôt !